VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est midi à Yaoundé au Cameroun. Les autorités camerounaises veulent décapiter le parti de Boris Kamto, a estimé aujourd'hui son vice-président Emmanuel Sim dans un communiqué dénonçant l'arrestation la veille de l'opposant et plusieurs de ses soutiens à Douala. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, condamne fermement ces interpellations politiques injustifiées et au demeurant annoncées, dont le but inavoué est de décapiter le MRC et sa coalition gagnante autour de Maurice Kamto, dit le texte. Le leader du MRC, Maurice Kamto, qui revendique toujours la victoire à la présidentielle d'octobre, dont il est arrivé officiellement deuxième derrière le président Paul Biya, a été arrêté lundi soir au domicile d'Albert Nzongang, homme politique, soutien de M. Kamto. Trois chefs d'une milice rebelle, dont un homme accusé de meurtre de 39 policiers en 2017, se sont rendus aux autorités aujourd'hui au Kasaï, région du centre de la RDC, théâtre d'un conflit en 2016-2017 et fief du nouveau président Félix Tshisekedi, a déclaré un responsable local. Les chefs des miliciens Kamuina Nsapu, Kondo Lua Ka Teboa, Mubiai Dewaï et Mwamba Musolo se sont rendus en déposant les armes, a annoncé Joseph Muchipai, administrateur de territoire de Luebo dans la province du Kasaï. Depuis l'investiture la semaine dernière de Félix Tshisekedi, natif de la région du Kasaï, comme président de la République démocratique du Congo, au moins 650 miliciens ont déposé librement les armes pour manifester leur satisfaction sur une estimation de 1700 miliciens au total. Au Congo-Brazzaville, l'État lance à nouveau la chasse contre les... La chasse contre les agents fictifs de la fonction publique et tous ceux qui touchent indûment des indemnités. Un recensement a montré que plus de 4500 agents étaient dans cette situation, nous dit Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Le gouvernement est à son énième recensement des agents publics en deux décennies dans le but de déflatter la fonction publique. Comme toujours, les résultats sont ahurissants. Des milliers de faussaires, tant dans le solde des civils que des militaires. On dénombre 4 525 agents fictifs. Gabriel Mosiengo, inspecteur général des services administratifs à la fonction publique, revient sur ses comportements.
Le rapport a déjà mis en lumière toutes ces irrégularités. Nous savons aujourd'hui qui a fraudé, qui a fait usage d'un faux diplôme, qui a fait usage d'un faux texte. Tous ces éléments sont déjà disponibles dans le rapport du recensement.
Analysant les performances de la fonction publique, l'économiste Alphonse Ndongo estime que ces antivaleurs constituent un frein dans le rendement des agents de l'État.
Il n'est pas impossible que quelqu'un qui se fait prendre, comme ça a été le cas lors des derniers recensements, revienne avec des justificatifs, parfois eux-mêmes falsifiés, pour pouvoir être à nouveau intégré dans le fichier. En l'état actuel des choses, on ne peut même pas mesurer la productivité marginale d'un travailleurs de la fonction publique congolaise. Les gens vont au travail quand ils veulent et en partent quand ils veulent aussi. Et pourtant, tout le monde le sait que la masse salariale absorbe l'essentiel du budget de fonctionnement de l'État. Et c'est un véritable problème.
Finalement, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes à travers l'application d'une douzaine de mesures visant l'assainissement de l'administration publique. S'adressant aux agents chargés d'appliquer ces mesures, Firmin Ayessa, le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, exhorte.
Ceci simplement pour que nous tenions les délais. Nous avons été solennellement interpellés par le président de la République. Il va donc falloir que vous travailliez à ce que les délais, dans la mesure du possible, soient resserrés. Ils devraient l'être puisque la matière nous l'avons.
Les syndicats, généralement zélés dans la défense des intérêts des travailleurs, sont cette fois-ci d'accord avec la démarche du gouvernement. Édouard Adzoussa, président de la Fédération du syndicat des journalistes.
Tel que c'est défini là, c'est clair. Nous accompagnons l'État dans l'assainissement de la fonction. Ça c'est normal parce que c'est la vie des travailleurs. Il faut mériter ce que vous obtenez. Si vous n'occupez plus le poste et qu'on continue à vous payer comme directeur ou chef de service de bureau, ça c'est malhonnête. Il faut le laisser à d'autres. Nous ne sommes pas contre ce toilettage-là.
Selon le dernier recensement, plus de 11 000 personnes perçoivent frauduleusement les indemnités de fonction et la situation des militaires n'a pas été révélée. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Quelques 30 000 personnes ont fui la ville de Ran dans le nord-est du Nigeria en l'espace de 48 heures pour échapper aux djihadistes du groupe Boko Haram, a annoncé aujourd'hui le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, le HCR. Toute la population semble paniquée et a pris la fuite pour tenter d'échapper à la mort, a déclaré le porte-parole du HCR Babar Balok lors d'un point de presse à Genève. En Burkina Faso, au moins 4 soldats ont été tués et 4 autres blessés hier à Nassumbu, dans le nord du pays. Dimanche, une autre attaque avait coûté la vie à 10 civils. Bagassi Koura fait le point.
Des individus lourdement armés et non identifiés ont attaqué hier matin la base militaire de Nassumbu. Ils sont arrivés à bord d'engins à deux roues. Ils ont tiré avec des roquettes, déclenchant un incendie dans la même base où 12 soldats ont été tués en décembre 2016. La force française Barkhane a dû intervenir avec un avion Mirage venu de Niamey au Niger et un hélicoptère Tigre venu de Gao au Mali. Les assaillants ont battu en retraite en direction de la frontière malienne. Dimanche, 10 civils ont été tués par des assaillants qui ont ouvert le feu sur les habitants du village de Sikiré à moins de 100 km de Nassumbu. Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur les 45 que compte le Burkina Faso. Malgré tout, le 10 janvier, 12 civils ont été tués dans le village de Gassiliki. Face à la multiplication des attaques qui ont fait près de 300 morts, le président Roch Kabore a limogé le chef d'état-major des armées et remplacé la semaine dernière les ministres de la Défense et de la Sécurité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump va prononcer son discours sur l'état de l'Union le 5 février devant les membres du Congrès à Washington, avec une semaine de retard sur la date initiale pour cause de shutdown, a annoncé lundi la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Cette nouvelle date a été mutuellement acceptée lors d'une conversation entre les deux responsables politiques, a précisé dans une lettre Mme Pelosi, à qui il revient d'inviter officiellement le président au Congrès. Les négociations de paix entre les États-Unis et les talibans pour mettre fin à 17 ans de guerre en Afghanistan sont plutôt encourageantes, ce qu'a fait savoir à Washington le nouveau chef du Pentagone, les précisions, John Lydon.
Les États-Unis ont longtemps refusé des pourparlers directs avec les talibans afghans. Hier, Patrick Shanahan, patron par intérim du Pentagone, a estimé que les négociations menées jusqu'ici sont encourageantes. Questionné sur un éventuel retrait de la moitié des 14 000 soldats américains en Afghanistan, il s'est abstenu de tout commentaire. Par contre, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui se trouvait à côté de M. Shanahan, a jugé qu'il était trop tôt pour parler d'un retrait des forces de l'OTAN d'Afghanistan. Pour sa part, l'émissaire américain pour la paix en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a annoncé qu'une ébauche d'accord a été établie à Doha avec les talibans pour mettre un terme aux 17 ans de conflit. « Il y a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir dire que nous avons réussi », a-t-il ajouté. La condition première à toute négociation pour les talibans était le retrait des forces étrangères d'Afghanistan, selon le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, avant, c'est pour parler de Doha au Qatar.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a choisi un ex-officier danois, Michael Lollesgaard, pour remplacer, un mois seulement après son arrivée, le chef des observateurs onusiens au Yémen, l'ex-général néerlandais Patrick Kamaert. Selon des diplomates, les relations de Patrick Kamaert étaient tendues avec les rebelles houthis et l'émissaire de l'ONU, le Britannique Martin Griffiths. Michael Lollesgaard a été proposé hier aux 15 membres du Conseil de sécurité qui ont 48 heures pour accepter ou refuser cette nomination. Le Kremlin a dénoncé aujourd'hui comme illégal les nouvelles sanctions américaines décrétées contre la compagnie pétrolière nationale du Venezuela, accusant Washington d'ingérence et annonçant son intention de défendre ses intérêts dans le pays. Les États-Unis ont pris la voie directe du renversement des autorités légitimes du Venezuela, a par ailleurs déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, estimant que les sanctions américaines sapent gravement les derniers vestiges de confiance dans le système monétaire et financier international basé sur la prééminence du dollar. Les États-Unis ont annoncé lundi des sanctions contre la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne, 5 jours après avoir reconnu le chef du Parlement, Juan Guaido, comme président par intérim du Venezuela, plongé dans une grave crise économique et politique. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.